Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans ce magnifique traité de la tempérance. J'avais oublié, j'avoue, à quel point ce traité est beau. Des questions splendides. Je vais essayer de vous en faire découvrir toute la splendeur. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout expliquer. Ce n'est pas un cours de théologie de haut niveau, de haut vol. Je n'ai pas les possibilités, je n'ai pas les moyens. J'ai pas les compétences non plus, mais j'essaye de vous faire aimer saint Thomas d'Aquin. Si j'ai réussi à ça, ben je n'ai déjà pas perdu mon temps. Donc nous en sommes dans ce traité de la tempérance, donc qui couvre dans la seconda secundae les questions 141 à 150. Mais je vous dis pas de bêtises. 141 à 170. Nous en sommes à la question 146 avec une question dont le titre est le suivant: des parties subjectives de la tempérance et l'apport de l'abstinence. Donc je vous l'ai déjà expliqué, la tempérance a pour but surtout de réfréner la concupiscence du toucher, la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair. Et il y a beaucoup de travail. Certainement une des vertus qui est le plus sollicitée aujourd'hui parmi les catholiques. Car Saint Jean nous le dit bien, tout ce qui est dans le monde, c'est la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Et donc à chaque fois que vous sortez dans une ville pour faire des courses, surtout pour préparer la fête de Noël sur le plan matériel, et bien rappelez-vous cette vertu de tempérance qui est tellement importante pour que le sens du goût, le sens du toucher, toutes les choses qui touchent justement à la concupiscence des yeux, à la concupiscence de la chair, soient gardées sous un strict contrôle de la raison. C'est le but de la vertu de tempérance. Donc, saint Thomas se pose d'abord la question, article 1, la question 146, la seconda secundae, l'abstinence est-elle une vertu spéciale? Eh bien, voilà ce qu'il va dire. En parlant de la vertu de tempérance, de l'abstinence, pardon, il va nous dire que cette vertu nous apprend à supporter facilement et avec tranquillité d'âme, pour la gloire de Dieu, la privation des aliments lorsqu'elle est nécessaire. Le royaume de Dieu, selon la remarque de saint Paul, ne consiste pas dans le boire et dans le manger. On peut le gagner soit en prenant la nourriture, soit en n'en prenant pas, pourvu que l'on agisse selon la loi, selon la foi et par amour pour le bon Dieu. Donc, l'abstinence est une privation d'aliments, et prise en elle-même, cette abstinence n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est réglée par la raison. Si elle est réglée par la maison, elle devient à ce moment un acte de vertu. N'oublions pas que l'Église, justement, nous demande de faire pénitence. Et une des pénitences que l'Église nous demande, c'est la pénitence qu'on appelle l'abstinence. L'abstinence au sens large, c'est la mortification au niveau de la nourriture. Après, on verra ce qu'est l'abstinence ecclésiastique. L'abstinence ecclésiastique, c'est l'abstinence de viande. Mais ici, saint Thomas parle d'abord de l'abstinence au sens général. Donc, il se pose la question de savoir si c'est une vertu spéciale et il répond que la vertu, mais les vertus morales protègent la raison contre les passions. Donc, l'abstinence qui réprime ses passions est une vertu spéciale. En tant que telles, les passions, si elles sont dominées par la raison, si elles sont régies, gouvernées par la raison, les passions sont des choses bonnes. Notre Seigneur Jésus-Christ avait les passions d'un homme normal. Mais évidemment, sans la corruption du péché originel, donc il était parfaitement maître de ses passions. L'amour, la joie, la haine contre les choses mauvaises, contre le péché, sont des choses qui sont bonnes. Mais l'abstinence, justement, doit être là pour gouverner cet usage des sens. Le bon Dieu nous a donné des sens, il demande à ce qu'on utilise ces sens. On ne peut pas obtenir quoi que ce soit dans notre intelligence sans passer par les sens, parce que nous comprenons les choses par abstraction. Donc les sens sont en soi quelque chose qui n'est pas mauvais, à condition que ce soit régulé par la raison. Donc la vertu d'abstinence va châtier le corps pour le prémunir contre la luxure et la gourmandise, vice impérieux à proportion des concessions qu'on leur fait. C'est-à-dire qu'il est évident qu'actuellement le démon travaille énormément avec ses concupiscences. Il a toujours travaillé avec les concupiscences, mais aujourd'hui plus que jamais. Alors quelle est la concupiscence avec laquelle le démon travaille le plus? Est-ce que c'est l'impureté, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de l'orgueil? Je crois, je peux me tromper, que c'est d'abord avec la concupiscence de l'orgueil. Mais la concupiscence de l'orgueil chez le démon, dans le monde moderne, en 2018, passe par la concupiscence des yeux, ce désir de tout posséder, cet orgueil invraisemblable qui consiste à vouloir tout posséder. Le démon essaie en quelque sorte de couvrir notre âme de choses matérielles, notre corps de choses matérielles, pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses spirituelles. Notre âme va être complètement envahie par les choses matérielles à un tel degré qu'il n'y a plus de place pour le spirituel. Et donc l'âme va s'étioler, finir par mourir. C'est ce que veut le démon. Alors, voyons un petit peu, en avançant dans ce traité de la tempérance, donc une question importante, c'est la question 147 sur le jeûne. Je rappelle, j'ai déjà dit plusieurs fois que les anciens apportaient beaucoup plus d'importance au jeûne qu'aujourd'hui. Il y avait ces trois grandes pénitences dont je vous ai souvent parlé, le jeûne, l'aumône et la prière, justement contre les trois grandes concupiscences. Le jeûne contre la concupiscence de la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux et la prière contre l'orgueil. Quand on voit un petit peu les jeûnes du Moyen-Âge, ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Dans certaines périodes du Moyen-Âge, surtout dans les périodes de grande foi, au début du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, les lois sur le jeûne pendant le carême étaient ahurissantes pour un homme moderne. Les catholiques, pendant le Moyen-Âge, à peu de choses près, enfin, il y avait des variations selon les régions, mais en général, pour les périodes de carême, la période de carême, donc la période qui va depuis le mercredi décembre jusqu'à la fête de Pâques, 40 jours de pénitence, eh bien, au Moyen-Âge, c'était pas simplement le jeûne ecclésiastique avec un repas par jour, c'était l'abstinence totale de viande pendant tout le carême, y compris le dimanche. C'était aussi l'abstinence de, très souvent, de poissons et de produits laitiers. Dans la pratique, les catholiques ne mangeaient, pendant la période du carême au Moyen-Âge, ils ne mangeaient que du pain et des légumes et des fruits. Pain, légumes, fruits, c'est tout. Bon, certes, le pain de l'époque n'avait rien à voir avec notre pain caoutchouc d'aujourd'hui, pas du tout pareil. Le pain là-bas, à l'époque, était un pain complet, donc beaucoup plus nourrissant, certes, mais il faut voir qu'au Moyen-Âge, les gens avaient un esprit de pénitence beaucoup plus fondé, beaucoup plus enraciné que le nôtre d'aujourd'hui. Les pénitences du Moyen-Âge font souvent frémir les gens modernes, les catholiques modernes, et les pénitences des catholiques modernes feraient éclater de rire les gens du Moyen-Âge. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin sur ce jeûne. Alors d'abord, je voudrais faire un petit rappel au niveau du jeûne, des différentes sortes de jeûne, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les termes. Saint Thomas parle du jeûne au sens général, mais dans l'Église catholique, surtout aujourd'hui, dans le catéchisme de Saint Pédis, on distingue certains des différents jeûnes. Il y a ce qu'on appelle le jeûne naturel, le jeûne ecclésiastique et le jeûne eucharistique. Donc, le jeûne naturel, c'est l'absence de toute nourriture, tout simplement. Jeûner, c'est espacer de nourriture. C'est ça que ça veut dire au sens propre. Donc, quand on parle d'un jour de jeûne, strictement parlant, un jour de jeûne, c'est un jour pendant lequel on ne mange pas. Voilà, ça c'est jeûne naturel. Après, il y a le jeûne ecclésiastique. Le jeûne ecclésiastique, c'est un jeûne qui va suivre les lois canoniques. Donc, je reprends. Donc, le jeûne naturel, si vous voulez, pour expliquer de façon plus précise, le jeûne naturel consiste donc à éviter de, je vous l'ai déjà dit, donc éviter de manger pendant la journée. Une journée de jeûne, c'est une journée sans repas. Bon, le jeûne ecclésiastique consiste, donc va dépendre selon les coutumes locales, selon les différentes fonctions du droit canonique, on verra tout ça un petit peu, selon les différentes parties du droit canonique, on verra un petit peu tout ça. Le jeûne ecclésiastique, c'est strictement parlant un repas par jour. Donc, jeûne naturel, pas de nourriture. Jeûne ecclésiastique, un repas par jour. Ce qu'on appelle le jeûne canonique. Enfin, le jeûne eucharistique, c'est le jeûne qui précède la communion. Alors, d'après les lois de Pie XII, il est de 3 heures sans manger avant le temps de la communion pour les fidèles et 3 heures sans manger depuis le début de la messe pour le prêtre qui célèbre la messe. Bon. Donc le jeûne eucharistique, aussi d'après les lois de Pie XII que je suis, parce que Pie XII pour moi est pape, et donc nous sommes tenus par ces lois canoniques, d'après les lois de Pie XII, le jeûne eucharistique de Pie XII consiste donc à ne pas manger pendant 3 heures avant la communion pour les laïcs, avant le début de la messe pour les prêtres, et ceci est valable, cette loi de 3 heures est valable pour la nourriture solide et également pour l'alcool. Bon. Pour les autres liquides, tels que le café, le lait, le jus d'orange, choses comme ça, qu'on prend en général au petit déjeuner, c'est 1 heure avant la communion ou 1 heure avant le début de la messe, selon la personne. L'eau ne rompt pas le jeûne, d'après les lois de Pie XII. Cependant, Pie XII explique bien, lorsqu'il a changé ses lois pour permettre les messes du soir, et bien, il a changé les lois eucharistiques, évidemment, les lois du jeûne eucharistique, donc il rappelle que tous ceux qui le peuvent, entre autres pour les messes du matin, vous allez à la messe à 7h30 du matin, ben vous pouvez très bien, vous n'allez pas mourir, ne rien boire et ne rien manger depuis minuit. C'est l'esprit du jeûne. Il est évident qu'il faut beaucoup insister, surtout aujourd'hui, sur l'esprit du jeûne qui est un esprit d'expiation de nos péchés. On fait pénitence en expiation de nos péchés. On fait pénitence pour, justement, garder en contrôle les 3 concupiscences. Alors, voyons ce que dit saint Thomas d'Aquin, article 1er de cette question numéro 147 est très important. Le jeûne est-il un acte de vertu? Donc, je vous lis l'article parce qu'il est très beau, très complet. Les actes vertueux sont ceux que la raison peut rapporter à une fin honnête. Bon. En premier lieu, pour réprimer les convoitises de la chair et conserver la chasteté. Et ici, saint Thomas cite saint Jérôme, Sancerès et Bacchus. Bacchus était le dieu, je crois, le dieu de la boisson. Vénus perd son feu. Vénus était la déesse de l'amour. Donc, supprimer la nourriture et surtout l'alcool, disait saint Jérôme, et le corps va être beaucoup plus facilement être capable de suivre, de lutter contre les tentations d'impureté. Donc d'abord on fait pénitence, dit saint Thomas, on fait pénitence, on pratique le jeûne, donc de façon générale on pratique le jeûne pour lutter contre les concupiscences de la chair, donc c'est ce qu'il dit, en premier lieu pour réprimer les convoitises de la chair, et en second lieu, pour que notre âme, ça c'est magnifique comme phrase, pour que notre âme s'élève avec plus de liberté à la contemplation des mystères divins. J'ai fait tout un sermon dessus il y a quelques dimanches justement parce que j'avais trouvé ce texte magnifique. Donc, notre âme veut s'élever vers le bon Dieu, mais on a bien du mal à s'élever parce que on est appesanti par les choses matérielles. On a comme un gros sac à dos sur les épaules, plein de pierres matérielles, et évidemment, on peut pas voler, on peut pas s'élever vers le bon Dieu parce que le poids du sac nous rabaisse constamment vers la boue du monde moderne. Donc, si je jeûne, j'allège le sac, et du coup, mon âme va avec plus de liberté s'élever vers la contemplation des beautés divines. Hein? Donc, le jeûne va nous aider aussi, une parenthèse, à prier plus facilement. Le jeûne va nous aider à contempler la beauté plus facilement. Et enfin, en troisième lieu, on jeûne aussi pour expier nos péchés. Donc, trois raisons pour lesquelles on jeûne, dit saint Thomas d'Aquin. Réprimer les convoitises de la chair, pour que notre âme s'élève avec plus de liberté à la contemplation des mystères divins, et enfin, pour expier nos péchés. L'expiation de nos péchés est nécessaire au salut. Hein. Rappelez-vous ce que les pères expliquent, j'en ai souvent parlé, donc je retourne rapidement là-dessus. Il n'y a que deux voies pour aller au ciel, il n'y en a pas trois. Ou la voie d'innocence ou la voie de pénitence. La voie d'innocence est réservée à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Sainte Vierge Marie et aux bébés qui sont morts sans baptême. Pratiquement, c'est tout. Comme même le juste pêche 7 fois par jour, bon, il y a sans doute des saints qui ont dû éviter, par des grâces particulières qu'ils ont reçues de la miséricorde du bon Dieu, même les péchés véniels. Mais est-ce qu'il y a eu des saints qui ont été capables, avec la grâce du bon Dieu, d'éviter même les fautes de fragilité? Je ne sais pas. C'est le cas pour la Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité. Mais pour tous les autres, la voie d'innocence, donc, est réservée. Excusez-moi pour notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie et les bébés qui sont morts, qui meurent juste après le baptême, avant leur premier péché. Les bébés qui meurent juste après le baptême montent directement au ciel. C'est ça qu'on les appelle les voleurs de paradis. Lorsque la voie d'innocence est fermée, après le premier péché mortel, le premier péché tout simplement, dès qu'on commet un péché, même un simple péché véniel, dès que quelqu'un a commis un péché, la voie d'innocence est fermée pour lui. Pour aller au ciel. Il faut qu'ils prennent une autre voie pour aller au ciel, qui est la voie de la pénitence. Donc le jeûne est nécessaire pour expier nos péchés. Et ici, saint Thomas d'Aquin cite saint Augustin une phrase magnifique que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et voilà ce que dit saint Augustin: le jeûne purifie l'âme, élève les pensées, soumet la chair à l'esprit, rend le cœur contrit et humilié, disperse les nuages de la concupiscence, éteint le feu des passions, allume la vraie lumière de la chasteté. Et donc, conclusion de saint Thomas, il est évident donc ainsi que le jeûne est un acte de vertu. Alors, il y a une objection, évidemment, qui consiste à dire: jeûner, c'est enlever à la nature ce qui lui est nécessaire. Le jeûne n'est donc pas un acte de vertu. Eh bien, saint Thomas répond que dans certains cas, la raison prescrit à la nature de se priver de nourriture pour éviter, par exemple, une maladie ou pour exécuter avec facilité quelque ouvrage corporel. Combien plus n'est-il pas permis de s'imposer des privations semblables dans le but d'acquérir les biens spirituels en s'éloignant du péché? Si je constate que les choses du monde, surtout les trois concupiscences, surtout la concupiscence des yeux, je dirais la concupiscence de la chair, sont pour moi un obstacle pour me rapprocher du bon Dieu, je dois essayer dans toute la mesure du possible de courber, de garder sous contrôle ces deux concupiscences, surtout la chair et les yeux, afin de m'élever plus facilement vers le bon Dieu. C'est pour cela que saint Thomas dit que j'aurai à ce moment-là, si je jeûne, plus de liberté pour contempler le mystère divin. Alors il faut faire cela dans un bon esprit. C'est pas question de jeûner, par exemple. Il y en a qui jeûnent, on dirait que c'est un exploit sportif, pratiquement. Vous allez voir, je vais jeûner pendant le carême et je vais perdre 20 kilos pendant le carême. Vous faites pénitence, monsieur, pour perdre des kilos, ou vous faites pénitence pour expier vos péchés? C'est pas pareil. Si vous faites des pénitences incroyables pendant le carême sans rien manger pendant 40 jours parce que vous voulez perdre des kilos et devenir mec comme un clou, c'est votre problème. Mais n'appelez pas ça un acte de vertu. Détruire son corps, dit saint Thomas, par une privation excessive de nourriture et de sommeil, c'est offrir à Dieu un holocauste dérobé. Donc, encore une fois, la prudence va intervenir, la vertu de tempérance va intervenir là-dedans. Deuxième article, le jeûne est-il un acte de l'abstinence? Voilà ce que répond saint Thomas d'Aquin. Le jeûne, privation de nourriture, est évidemment un acte de la vertu d'abstinence. Mais cela ne veut pas dire qui ne puisse point appartenir aussi aux vertus de religion, de chasteté ou tout autre. C'est pour ça que dans un sens figuré, le mot abstinence s'applique, on applique l'abstinence de tout péché, tout plaisir illicite ou nuisible. Et donc c'est pas simplement l'abstinence de pain ou de nourriture ou de boisson, c'est l'abstinence du péché, l'abstinence d'offense à Dieu. Faire abstinence, d'abord c'est ce qu'on appelle la circoncision de l'esprit, qui est capitale, c'est-à-dire faire pénitence pour dominer les passions de notre âme. Le jeûne est-il un précepte ? Est-il deux préceptes ? Demande saint Thomas. L'article 3 de la question 147, voilà ce qu'il répond. Le jeûne étant utile à l'expiation et à la répression de nos fautes, on l'a déjà vu, non moins qu'à l'élévation de notre âme vers Dieu, on l'avait déjà vu, chacun de nous est tenu par le droit naturel d'y recourir autant qu'il est nécessaire pour ces trois fins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai péché, je dois jeûner pour expier mes péchés. Si j'ai des tentations qui viennent des concupiscences de la chair ou les concupiscences de l'orgueil ou la concupiscence des yeux, je dois jeûner pour réprimer ces concupiscences. Si j'ai un mal fou à élever mon âme vers la contemplation des mystères divins, j'ai l'obligation de jeûner pour que mon âme puisse s'élever avec plus de liberté à la contemplation de ces mystères divins. Donc chacun de nous est tenu, de par le droit naturel, donc de recourir au jeûne si c'est nécessaire pour sauver son âme, tout simplement. Donc, il appartient donc, dit saint Thomas, au prélat de l'Église de régler, selon les convenances et l'utilité du peuple chrétien, le temps et la manière de jeûner, d'où le jeûne ecclésiastique, c'est-à-dire le jeûne canonique. L'autre est le jeûne naturel. J'ai déjà expliqué que le jeûne naturel, donc, c'est l'absence de nourriture. C'est évident que le bon Dieu ne demande pas pendant le carême un jeûne naturel pendant 40 jours. Bon. Mais dire même notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Bon. Le prophète Élie l'avait fait aussi. Très bien, mais il y avait des grâces particulières. Hein, c'est pas parce que Saint Curé d'Ars mangeait une patate pourrie, une pomme de terre pourrie par jour, que ça veut dire que vous allez faire pareil. Parce que si vous faites pareil, vous allez devenir fou. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué, je crois, à la fin de sa vie, de Saint Curé d'Ars, sa version à un vicaire, pour l'aider un petit peu dans soin des paroissiens, parce qu'il passait son temps en confessionnal, il ne pouvait plus s'occuper trop des malades, et donc l'évêque, je crois que c'était l'évêque de Belay, lui avait donné un vicaire qui s'appelait un jeune prêtre, qui s'appelait Abbé Taillade. Alors évidemment, imaginez-vous un petit peu un jeune prêtre qui débarque dans la chapelle d'Ars, avec la sainteté du Saint Curé d'Ars, les pénitents du Saint Curé d'Ars, l'abbé Taillade a voulu commencer à vouloir faire les mêmes pénitences que le Saint Curé d'Ars. Et évidemment, ça n'a pas duré longtemps, et il est venu faire bloc à Manavé, il ne pouvait plus rien faire parce qu'il était incapable de supporter les mêmes pénitences. Et le Saint Curé d'Ars, il ne voyait rien parce qu'il passait son temps en confessionnal. Et ce sont les paroissiens qui ont prévenu le Saint-Curé d'Ars, ont dit attention, votre vicaire là, il est en train, il va s'envoler, le premier souffle de vent, il est devenu mec comme un clou, il va mourir, il fait trop pénitence, il est incapable de faire ça. Alors le Saint-Curé d'Ars vers les yeux est allé voir la bétaillade et l'a fortement réprimandé en disant je vous interdis de faire ces pénitences. Et la bétaillade a dit mais et vous le faites bien, oui mais moi j'ai des grâces spéciales que vous n'avez pas. Donc la chair est en bagarre contre l'esprit. C'est pour ça qu'il est nécessaire, il est absolument nécessaire de jeûner, de faire pénitence, comme remède à tout le monde. Seulement, tout le monde n'est pas tenu de jeûner de la même façon. Il est évident que un travailleur qui fait un travail physique, quelqu'un qui travaille par exemple, je ne sais pas moi, un agriculteur qui est derrière sa charrue, surtout au Moyen-Âge, même aujourd'hui, quelqu'un qui travaille sur un chantier par exemple, avec un travail extrêmement physique pendant la journée, bon ben, ne peut pas faire le même jeûne qu'un moine ou qu'un intellectuel, si vous voulez, qui passe toute sa journée devant son ordinateur à faire des calculs. Bon, ce n'est pas du tout le même genre d'activité. Bon, une maman qui est enceinte, une personne qui est malade, une personne qui est diabétique par exemple, beaucoup de diabétiques ont besoin de manger des petites quantités plusieurs fois au cours de la journée, ils peuvent pas jeûner comme tout le monde. C'est évident que l'Église, justement, à cause de ça, on verra ça plus tard, donne des dispenses, justement, par bon sens.
Donc les jeûnes de l'Église, cependant, sont obligatoires selon l'intention du législateur. Les préceptes qui les ordonnent n'obligent pas tout le monde de la même manière, dit saint Thomas. Les violer par mépris de leur auteur ou de manière à empêcher la fin qu'il s'est proposée, c'est pécher mortellement. Donc, rappelez-vous, c'est ces trois points, donc j'insiste sur ces trois points de saint Thomas. On jeûne, je rappelle, pour expier nos péchés, pour réprimer les convoitises de la chair, pour permettre à notre âme de s'élever avec plus de liberté à la contemplation des mystères divins. Alors, il faut agir avec discrétion. Saint Thomas se pose la question, à l'article 4 de la question 147, tous les fidèles sont-ils tenus au jeûne de l'Église? Il faut agir avec discrétion. Donc, le législateur, en les établissant, ces lois, considère ce qui arrive communément dans le plus grand nombre des cas. Mais il peut y avoir des circonstances particulières qui s'opposent à leur observation, son intention est dans ce cas-là de ne pas obliger à les suivre. C'est pour ça qu'il faut agir avec discrétion. La prudence est une vertu. Si quelqu'un, dit saint Thomas, a-t-il une raison évidente, il peut légitimement se dispenser de lui-même, surtout si la coutume l'y autorise, ou si, dans le cas contraire, il ne peut pas facilement recourir à l'autorité. Il est évident que si on peut recourir à l'autorité, il faut le faire. Rappelez-vous, surtout au XVIIIe, XIXe siècle, même pendant tout le Moyen-Âge, au temps des moissons, les curés avaient pouvoir de dispenser les ouvriers et les agriculteurs de dispenser des œuvres de l'empêchement que donnait l'Église de travailler le dimanche. La moisson était prête, il fallait absolument faire les blés, sinon les grains allaient tomber, on allait perdre tout le blé. Et donc, si le vent menaçait ou la pluie menaçait, le curé donnait à ce moment-là une permission aux agriculteurs pour qu'ils puissent ramasser leur moisson et préserver le blé pour qu'il ne soit pas détruit qu'il ne tombe pas à cause du vent, qu'il ne soit pas détruit par la pluie. Mais la règle générale, c'est que tous les fidèles, à moins d'un empêchement particulier, sont généralement tenus. Bon. Et que quand on peut demander l'autorisation à un supérieur compétent, il faut le faire. Alors, en principe, les lois du jeûne ecclésiastique, obligent toutes les personnes depuis 21 ans jusqu'à 60 ans. Donc, après 60 ans ou avant 60 ans, le jeûne ecclésiastique n'est pas d'obligation. Ça n'empêche pas de faire pénitence quand même. Vous serez surpris de voir, les parents le savent très bien, à quel point un enfant de 6-7 ans qui a fait sa première communion est capable parfaitement de passer plusieurs heures sans jeûner, pour pouvoir communier à jeûne. D'ailleurs, il le souhaite. Bon, maintenant, il faut du bon sens, encore une fois. Je me rappelle, d'où je m'occupais, c'était terrible, je vais peut-être déjà donner comme exemple, je m'excuse de me répéter, mais beaucoup de gens prennent le cours au milieu de cours, c'est pour ça que je répète un peu aussi les choses. C'était une dame dans une de mes chapelles, la chapelle dont je m'occupais, c'est en Australie, qui voulait absolument jeûner depuis minuit avant de communier à la messe de 10 heures. En plus, là-bas, il faisait très très chaud. Température monte à 40 degrés en été, à plus 40 degrés en chaleur humide, donc c'était très chaud, même avec la condition, avec les ventilateurs dans la chapelle. Il n'y a pas d'air conditionné dans la chapelle, mais c'était un peu une étuve. Et bien régulièrement, cette personne qui tenait absolument à jeûner depuis minuit avant la messe tombait en syncope pendant la messe, parce qu'elle n'est pas capable de physiquement, d'avoir des pénitences de ce genre. Alors, c'était à chaque fois, il fallait arrêter tout, il fallait s'en occuper, appeler les pompiers, appeler les médecins, tout ça. Et à chaque fois, elle gênait tout le monde. On a eu mal fou de lui faire comprendre, mais madame, mais prenez au moins un café, quelque chose, avant la messe, puisque l'église vous y autorise, vous avez droit à un café, une heure avant la communion, prenez un café avant la messe pour pouvoir justement tenir le coup pendant la messe. Ah non, je suis le jeûne eucharistique, et vous n'avez pas le jeûne naturel depuis minuit. Vous n'êtes pas capable, madame. La preuve, c'est que vous tombez dans les pommes à chaque fois. Ça ne va pas, ça. Et très souvent, dans ces cas-là, il y a l'orgueil qui s'en mêle. Alors, ça n'arrange pas les choses. Donc, je rappelle que le jeûne est obligatoire pour toutes les personnes qui ont entre 21 et 60 ans. Donc après 60 ans ou avant 60 ans, avant 21 ans pardon, ou après 60 ans, le jeûne n'est pas obligatoire. Je parle du jeûne ecclésiastique. Je ne parle pas du jeûne eucharistique. Le jeûne eucharistique est une loi pour tous ceux qui communient, hein, y compris, je reprends, le jeûne eucharistique, pardon, le jeûne eucharistique est d'obligation pour tous ceux qui communient. Donc, quelqu'un qui a moins de 21 ans ou plus de 60 ans est tenu absolument à tenu par le jeûne eucharistique, et c'est-à-dire de ne pas manger dans les 3 heures qui précèdent la communion. Alors, donc saint Thomas explique, le commentateur aussi, que s'il est nécessaire de commencer par exemple de suite un pèlerinage pour quelques nécessités spirituelles ou travailler beaucoup physiquement, soit pour la vie du corps, soit pour la vie spirituelle, sans pouvoir en même temps observer les jeûnes, on n'y est pas tenu. Donc l'Église accepte, tolère des dispenses, mais avec des lois précises qu'il faut suivre. Article 5. Les jours de jeûne ont-ils été convenablement fixés? Donc l'Église, l'autorité de l'Église, répond saint Thomas, est suffisante à cet égard. Je voudrais vous redonner ici, parce que souvent on a des tas de questions au début de temps de pénitence, ou au début de carême, les gens sont un peu perdus avec les lois de jeûne pour remplir le sixième commandement de l'Église. Tu jeûneras les jours fixés par l'Église, tu feras abstinence les vendredis, les jours fixés par l'Église. Donc, je répète, le jeûne, c'est un repas par jour pour tous les fidèles depuis 21 ans jusqu'à 60 ans. Bon, ce qu'on appelle un frustulum est toléré, c'est-à-dire que on peut prendre un petit peu quelque chose le soir, par exemple, vous pouvez prendre une soupe le soir avec un bout de pain, ça c'est possible, ou pour certaines personnes, c'est plus pratique de prendre quelque chose de très léger au petit déjeuner le matin, ou quelque chose de très léger au repas de midi, et puis prendre un vrai repas le soir, les jours de jeûne. Bon, alors quels sont les jours de jeûne obligatoires, donc pour tous les fidèles depuis 21 ans jusqu'à 60 ans, selon les lois du pape Pie XII? Donc tous les jours du carême, sauf les dimanches, on jeûne pas le dimanche, les mercredis, vendredis et samedi des quatre temps, la vigile de l'Immaculée Conception, le 7 décembre, et la vigile de Noël, ou la veille de la vigile de Noël plus exactement. Pie XII avait modifié justement la date du jeûne pour la vigile de Noël, à la demande des mères de famille, qui disaient, mais le 24 décembre, on ne peut pas, pratiquement pas jeûner, parce qu'on est obligé de préparer le repas, il faut tout goûter et tout. Et donc, le pape Pie XII avait changé la loi, et avait dit très bien, le jour de jeûne pour Noël, avant Noël sera fixé au 23 décembre, ou le 22, si le 23 décembre tombe un dimanche. Ce qui est le cas cette année. Cette année, je vérifie, c'est ça. Le 23 décembre, c'est un dimanche. La fête de Noël sera le 25 décembre, donc le 23 décembre étant un dimanche, il n'y a pas de jeûne le dimanche, donc le jeûne de la vigile de Noël passe au 22 décembre. Donc je répète, jour de jeûne, d'après les lois de Pie XII, tous les jours de carême, sauf les dimanches, et mercredi, vendredi, samedi des quatre temps, vigile de l'Immaculée Conception le 7 décembre et veille de la vigile de Noël. Donc le 23 décembre, sauf si ce 23 tombe à dimanche, à ce moment-là, ça passe au 22. Au niveau de l'abstinence, parce que saint Thomas en a parlé juste avant, l'abstinence, c'est l'absence de viande. Sont tenus par l'abstinence tous les chrétiens qui ont un âge de raison. Donc, les jours d'abstinence sont le mercredi des cendres, les mercredis et les samedis des quatre temps, la vigile de l'Immaculée Conception, le 7 décembre, la veille de la vigile de Noël, même loi que pour le jeûne, le 23 décembre ou le 22 si le 23 tombe un dimanche, et tous les vendredis de l'année. Alors, si dans certains lieux un jour de fête d'obligation tombe un vendredi, par exemple, imaginez le fête de Noël qui tombe un vendredi, le jour d'obligation fait sauter le jeûne. Donc si la fête de Noël tombait un vendredi, ce jour-là, vous auriez le droit de manger de la viande. Donc il faut s'accrocher à ces lois canoniques. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez faire plus, hein. Mais Je pense que ce sont les lois auxquelles nous sommes tenus, puisque Pie XII est certainement pape, ce qui n'est pas le cas du tout pour celui qui est arrivé après, Jean XXIII, qui commence à tout casser, à tout détruire, mais Pie XII est pape. Donc on est tenu par les lois canoniques de Pie XII concernant le jeûne eucharistique, concernant le jeûne et l'abstinence. Destiné à expier nos péchés, à lever nos âmes vers Dieu, le jeûne a dû être placé aux époques où il faut que les hommes se purifient plus spécialement de leurs fautes et raniment la dévotion dans leur cœur. C'est le cas, par exemple, du carême. C'est dans ce double but, dit saint Thomas, qu'ont été institués les 40 jours de jeûne qui précèdent la solennité capascale, c'est le carême. Il a été ordonné de jeûner aux veilles des grandes fêtes, les vigiles. Et la coutume de l'Église aussi est de conférer 4 fois par année les ordres sacrés. Il était encore convenable d'y disposer par le jeûne ceux qui ordonnent, ceux qui sont ordonnés, et enfin même tout le peuple pour l'utilité duquel ont lieu les ordinations. Les ordinations avant avaient lieu surtout pour les 4 temps. Les 4 temps qui sont les prières demandées, c'est-à-dire des jours de pénitence, avec jeûne et abstinence, qui ont lieu 4 fois par an au moment des changements de saison. Donc il y a les 4 temps de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. À chaque fois, il y a 3 jours de 4 temps, 4 fois par an, donc le mercredi, le vendredi et le samedi. Donc le mercredi, vendredi et samedi des 4 temps, il y avait obligation, et il y a toujours obligation du jeûne et de l'abstinence. Article 6. Est-il nécessaire pour jeûner de ne faire qu'un repas? Donc, répond de saint Thomas, l'Église a sagement réglé que l'on ne ferait qu'un seul repas les jours de jeûne. Bon, vous pouvez, les lois canoniques, elles sont beaucoup plus précises, entre autres dans les monastères. Bon, vraiment, c'est à moins, bon, jusqu'à peser le pain qu'ils prennent, par exemple, pour le petit frustulum du soir. Bon, très bien, moi je veux bien, vous pouvez le faire aussi, mais, cependant, je ne pense pas que ce soit trop l'esprit du jeûne. Voyez, je pense qu'il faut faire attention à ça et ne pas garder un aspect purement matériel du jeûne. On jeûne pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu. Sinon, le jeûne ne sert à rien. Donc, petit détail rappelé, la médecine, les médicaments que l'on prend pour des raisons médicales, ne rompt pas le jeûne. Donc, si vous avez des médicaments à prendre, un médicament à prendre impérativement avant la messe du dimanche, eh bien, prenez votre médicament tranquillement, parce que quand on prend un médicament, on ne prend pas un médicament pour se nourrir. Le médicament, c'est pour soigner. Hein, sauf si c'est une vieille dame qui a décidé de se nourrir que de médicaments. Je connais qui sont comme ça. Mais il faut faire attention à ça. Donc, vous avez parfaitement le droit de prendre un médicament juste avant la messe si c'est nécessaire pour une prescription médicale. Alors, l'heure de nonne, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, a-t-elle été convenablement fixée pour le repas? Avant, c'était la coutume. Donc, le repas pendant les temps de jeûne avait lieu à 3 heures. Le jeûne institué pour expier et prévenir les fautes devait, sans trop accabler la nature, ajouter quelque chose à l'usage où l'on est de dîner à midi. L'Église a prescrit sagement, dit saint Thomas, de ne prendre ce repas qu'à l'heure de nonne, c'est-à-dire à la 3e heure de l'après-midi, laquelle concourt avec le mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui à la 9e heure du jour, ayant incliné la tête, rendit l'esprit. 9e heure du jour, depuis 6 heures du matin, qui est la première heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Bon, il est évident que ceux qui peuvent, pendant le carême, ceux qui ont la possibilité de prendre leur repas unique à 3 heures de l'après-midi, très bien, faites-le, mais c'est pratiquement jamais possible pour les gens qui travaillent et même pour les mères de famille. Pour les familles avec des enfants, c'est très compliqué. Et donc, dans la pratique, l'Église autorise d'avoir le repas unique pour ceux qui sont tenus les jours de jeûne à l'heure qui vous convient dans la journée. C'est ce que disent ici les commentateurs. Quoi qu'il en soit, l'heure du dîner pour les jours de jeûne n'est pas fixée d'une façon précise. Elle s'estime moralement. Si, par exemple, pour des raisons importantes, l'heure de nonne devenait trop pénible à cause des infirmités de l'âge ou pour tout autre motif raisonnable, motif professionnel par exemple ou familial, on pourrait obtenir dispense du jeûne ou le devancer. Alors, il est, d'après une coutume généralement reçue, je vous l'ai déjà dit, permis d'ajouter à ce repas une légère collation, ce qu'on appelle un frustulum. On peut même avoir 2 petites collations le matin et le soir, avant dans les villes surtout, Moyen-Âge, c'était comme ça, même au XIXe siècle, pour les bons catholiques, donc ils prenaient souvent leur repas principal le soir, parce que dans la journée, ils travaillaient, ou même aujourd'hui, souvent les gens travaillent pendant le carême, évidemment, ils travaillent tous les jours, donc, sauf les dimanches, donc ils travaillaient les jours de jeûne du carême, ils ne pouvaient pas prendre souvent leur repas principal à midi, donc ils prenaient un petit truc le matin avant de partir, une tasse de café au lait avec un bout de pain, un petit quelque chose, un petit encas à midi, et puis ils prenaient le repas normal le soir en famille. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, article 8, qui canoniquement n'impose plus aujourd'hui avec le droit canonique du pape Saint Pie X, donc publié juste après la mort de Saint Pie X en 1917, c'est le droit canonique de l'Église catholique, donc celui auquel vous et moi nous sommes tenus, sous peine de péché, de suivre. Donc, est-il convenable d'interdire, dit Saint Demande Saint Thomas, article 8 de la question 147, d'interdire à ceux qui jeûnent l'usage de la viande, des œufs, du laitage? Oui, donc je vous lis l'article qui a une valeur historique actuellement, mais qui quand même qui donne un peu une idée de pénitence du Moyen Âge. Hein. L'Église ayant établi le jeûne pour réprimer les convoitises de la chair, il était convenable d'interdire aux jeûneurs les aliments qui leur sont les plus agréables au goût et qui portent davantage de la volupté. Les viandes qui donnent les animaux nés vivants sur la terre, le laitage des quadrupèdes et les œufs des volatiles. Saint Thomas, il est mort en 274, 13e siècle, c'est l'âge d'or, hein, l'âge d'or du christianisme, au moins en Europe. Eh bien, à l'époque, pendant les jours de jeûne, encore une fois, pas de viande, pas de lait, pas de laitage, pas d'œufs. Ils mangeaient, je vous l'ai déjà dit, que des fruits, du pain et des légumes. Et dans certains lieux, on s'abstenait aussi du poisson et même du vin, surtout en carême. Donc en fait, dans la pratique, chacun doit se conformer à la coutume des lieux où il se trouve. Les choses sont différentes. En Espagne, par exemple, tous les pays hispaniques, mais surtout en Espagne, le vendredi, vous êtes autorisé à manger de la viande. Hein, c'est ce qu'on appelle la boula. C'est une loi qui avait été accordée, une dispense qui avait été accordée, si mes souvenirs sont exacts, par le pape je crois que c'est le pape Saint-Pie V, qui avait accordé pour l'Espagne le privilège de manger de la viande le vendredi pour remercier l'Espagne de sa participation à la bataille de Lépante contre les musulmans, contre l'islam. Article, question 148, nous avançons, question 148 de la gourmandise. Gourmandise qui est un péché capital, mais qui n'est pas, attention, on va voir ça avec Saint Thomas, un péché capital, ça veut dire que c'est péché mortel à chaque fois. Un péché capital n'est pas forcément un péché mortel. Un péché capital, caput en latin, ça veut dire la tête. C'est un péché qui entraîne d'autres péchés, beaucoup d'autres péchés. Et donc, on est considéré comme source beaucoup d'autres péchés. On appelle ça un péché capital. Donc, Saint Thomas se pose la question de savoir si la gourmandise est un péché. Donc, il définit d'abord le terme désir immodéré du boire et du manger. C'est évidemment un péché. Pour cela même que ce désir dépasse les bornes de la raison. Donc, lorsque on mange ou on boit de façon déraisonnable, il est évident que la gourmandise devient un péché. Bon. Donc, ce qui souille spirituellement, c'est la concupiscence déréglée du boire et du manger. Donc, on verra après les distinctions qui doivent être faites. Pour Saint Thomas, on va voir si c'est péché mortel ou péché véniel. Tout va dépendre de ce qu'on fait. Donc, Saint Thomas pose la question, d'ailleurs, l'article 2 de la question 148, la gourmandise est-elle un péché mortel? Voilà ce qu'il répond. Que l'homme s'attache tellement au plaisir de la table qu'à cause d'eux, il est disposé à mépriser Dieu, à violer ses lois, la gourmandise est un péché mortel. Voilà. Si, par une concupiscence déréglée, il désire trop les plaisirs de la table, mais sans vouloir rien faire contre la loi divine, dans ce cas-là, c'est un péché véniel. Donc, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, la gourmandise est un péché véniel. Il peut y avoir des cas où la gourmandise devient un péché mortel. Hein. On verra ça avec Saint Thomas plus tard, entre autres au niveau de la boisson. Quelqu'un qui sait qu'il a un problème de boisson et qui boit plus que de raison, qui s'enivre volontairement, sachant très bien qu'à chaque fois qu'il s'enivre, il fait des tas de bêtises, avec des conséquences graves à cause du scandale qu'il donne quand il est ivre, et qui néanmoins s'enivre, pêche mentalement, ça c'est certain. Article 3, la gourmandise est-elle le plus grand des péchés ? Donc saint Thomas va répondre que non, hein, que les péchés contre Dieu sont bien plus graves. Donc les péchés d'orgueil, par exemple, sont plus graves que les péchés de la chair ou les péchés de la concupiscence qui viennent de la concupiscence des yeux, bien que les péchés de la concupiscence de la chair soient en soi plus honteux que les péchés d'orgueil. On verra ça plus tard. Hein. Donc le vice de la gourmandise qui a pour fin la nourriture du corps est inférieur donc en gravité, au péché contre Dieu lui-même. Alors, article 4, a-t-on distingué convenablement les diverses espèces de gourmandise ? Donc, saint Thomas va suivre ici un texte de saint Grégoire le Grand, un grand pape, qui signale avec raison cinq espèces suivantes : recherche d'aimer splendide, excès de nourriture, délicatesse, empressement et avidité. Donc après, il faut distinguer au cas par cas, voir s'il y a matière grave, s'il y a pleine connaissance, s'il y a plein consentement. Et s'il y a matière grave, pleine connaissance et plein consentement, il est évident que la gourmandise peut devenir péché mortel. La gourmandise, dit saint Thomas, peut porter d'abord sur les aliments, ensuite sur la manière dont on les prend. Ainsi, le gourmand excède sur la qualité, la quantité, la manière et le temps. Par la manière dont on mange, le dérèglement consiste à anticiper le temps raisonnable, ce qui est marqué par l'empressement et à manger avec avidité. Je vous rassure tout de suite, la plupart des gens qui mangent avec avidité ne commettent pas un péché mortel, c'est un péché véniel. Cependant, si vous mangez trop, en sachant très bien que, puisque vous allez trop manger, vous allez vous ruiner la santé, surtout avec certains problèmes physiques que vous pouvez avoir, vous savez que si vous mangez trop de telle nourriture que vous aimez bien, vous allez être malade, vous ne pourrez donc plus faire votre devoir d'état. Dans ce cas-là, il peut y avoir, ça peut monter jusqu'au péché mortel, si le fait que vous ayez mangé cette nourriture que vous savez ne pas avoir le droit de manger pour des raisons graves, vous empêche de pratiquer votre devoir d'état, ou vous pousse à offenser le bon Dieu directement ou indirectement, il peut y avoir péché grave. Alors là, la gourmandise, dit saint Thomas, est un vice capital, c'est l'article 5. Les vices capitaux, donc j'ai déjà expliqué, sont ceux qui, par leur fin très désirable en elles-mêmes, donnent naissance à beaucoup d'autres péchés. C'est la source de beaucoup de péchés. Telle est la gourmandise qui a pour but les principaux plaisirs, ceux du toucher. Donc saint Grégoire la compte, à juste titre, au nom des péchés capitaux. Alors, est intéressant, ça c'est l'article 6 qui est intéressant là, de saint Thomas. Même si les termes utilisés peuvent surprendre un peu, c'est quand même très intéressant. Il se pose la question, l'article 6 de la question 148, convient-il d'assigner 5 filles à la gourmandise ? Donc, 5 conséquences de la gourmandise. Et donc, il dit, puisque la gourmandise a pour objet les plaisirs déréglés du boire et du manger, c'est avec raison qu'on lui donne pour fille les suites de ses plaisirs. C'est très intéressant de voir les 5 filles qu'il donne à la suite des pères de l'Église et des pères du désert surtout. Ce sont pour l'âme la stupidité de l'intelligence, la sotte joie, la loquacité, la jovialité, et pour le corps, la malpropreté, qui consiste dans l'émission déréglée de tout ce qui charge la nature, et l'incontinence, son effet ordinaire. L'incontinence, alors là, on touche à la concupiscence de la chair. Donc, je répète, stupidité de l'intelligence, sotte joie, loquacité, ça veut dire parler, beaucoup trop parler, la jovialité, une espèce de trapélie déréglée, si vous voulez, une espèce de sotte joie, qui consiste à vouloir beaucoup trop rire et quand c'est pas raisonnable. Malpropreté du corps, et souvent cela entraîne une malpropreté de l'âme que saint Thomas appelle l'incontinence. Donc saint Thomas va après donner des tas de détails, hein. Vous allez voir la question 149, donc c'est sur la sobriété. Question 150, donc très pratique, sur l'ivresse. Et ensuite, il va toucher à la chasteté. Vous voyez que la vertu de tempérance est une vertu qui couvre beaucoup de choses à la fois. Alors, on va attendre de faire encore, je pense, à moi, la question 149. La question 150, il demandera plus, je vais voir ce que je peux faire. Pour terminer au moins la question 149 de la sobriété. Hein? Donc, le mot sobriété vient du mot latin bria, B-R-I-A, qui signifie la mesure, qui montre que l'homme sobre sait garder la mesure. Donc, il y a une vertu qui va nous aider à garder la mesure dans la boisson. C'est ce qu'on appelle la sobriété. Buvez avec modération si vous voulez être sobre. Et cette vertu de sobriété est très importante, surtout aujourd'hui, et surtout pour les jeunes. Les jeunes doivent apprendre à la maison quand ils sont adolescents, enfants d'abord puis adolescents, à être sobres, parce que les vices de sobriété, les manques de sobriété vont entraîner l'ivresse, et l'ivresse peut entraîner des catastrophes. Il y a un lien très clair entre l'usage immodéré de l'alcool, donc l'ivresse, on verra ça après avec les questions 150, avec l'usage immodéré de l'alcool et tous les péchés d'impureté. Beaucoup de gens commettent des péchés épouvantables quand ils sont ivres, qu'ils ne commettraient jamais s'ils n'étaient pas dans l'état d'ivresse. Donc si vous vous enivrez en toute connaissance de cause, en sachant très bien ce que vous faites, en sachant très bien les conséquences, c'est évident que ça devient très grave pour vous. Maintenant, si vous le faites par surprise, c'est autre chose. Vous êtes surpris dans l'ivresse, vous n'avez pas fait attention, vous êtes à l'étranger, vous prenez quelque chose qu'on vous donne, et puis vous ne vous rendez pas compte que c'est très fermenté, que ça vous fait monter la tête tout de suite, vous fait tourner la tête tout de suite, vous ne le saviez pas, il n'y a pas de faute. Quand Noé a découvert que le vin, l'excès de vin pouvait, que le vin entraînait une ivresse, il ne le savait pas. Il est devenu ivre et il s'est déshabillé complètement, il s'est mis tout nu dans sa tente sous l'effet du vin. Et il n'y a aucune faute de sa part puisqu'il ignorait complètement les effets du vin à l'époque. Article 1, la boisson est-elle l'objet de la sobriété? Donc l'homme sobre, c'est garder la mesure. La sobriété a donc pour objet particulier, non pas toute espèce de boisson, mais le vin et les liqueurs enivrantes dont les fumées troublent le cerveau. Oui. Et les filles de la gourmandise, donc l'ivresse, c'est un péché de gourmandise d'une certaine façon. Donc les filles de la gourmandise regardent surtout l'ivresse. Donc, je répète, stupidité de l'intelligence. Saut de joie, jovialité, loquacité, malpropreté corporelle, incontinence. Donc, la stupidité de l'intelligence est une conséquence directe de ceux qui boivent trop. Et en général, la stupidité de l'intelligence va ouvrir la porte à tous les péchés d'impureté, y compris les péchés contre la nature. Donc, la sobriété est une vertu spéciale, une vertu particulière. Donc, qui va nous aider, comme partie de la tempérance, à garder l'usage de la boisson enivrante sous contrôle de la raison. Alors, l'usage du vin est-il illicite? Article 3. Alors, saint Thomas dit bien que non. Notre Seigneur Jésus-Christ, à Cana de Galilée, quand il a fait son premier miracle, a changé l'eau en vin. Donc, en soi, de boire, c'est pas un péché. Contrairement à ce que racontent certaines personnes. Aux États-Unis, j'ai eu des problèmes plusieurs fois avec des paroissiennes qui pensaient, qui estimaient que boire était un péché. On n'avait pas droit de boire de vin. Et je leur ai dit, mais attendez, notre Seigneur Jésus-Christ a changé l'eau en vin à Cana. Si c'était un péché de boire du vin, il n'aurait jamais fait ça. Non, mais c'était du jus de raisin. Non, c'était pas du jus de raisin, c'était du vin. Expressément exprimé dans le texte de, je crois que c'est Saint Jean, le texte de l'évangile, sur l'évangile de Cana, expressément dit que c'était du vin. Donc l'usage du vin, en tant que tel, n'est pas défendu. Il y a des sectes protestantes qui sont terribles pour ça aux États-Unis, les baptistes entre autres. Donc c'était leur règle. Et on pouvait faire n'importe quoi, mais trois choses, no drinking, no smoking, no gambling. On boit pas, on fume pas, on joue pas pour des jeux d'argent. Bon. Eh bien, je suis désolé, mais en soi, de boire raisonnablement, c'est pas un péché. Bon. Est-ce que fumer est un péché? Bon, fumée, c'est déjà un peu différent parce que la fumée, en soi, déjà détruit la nature humaine, détruit la santé. Bon, maintenant, quelqu'un qui fume de temps en temps, de façon raisonnable, je ne pense pas qu'il y ait de péché. Je ne pense pas qu'on puisse dire, même si certains prêtres le prétendent, que ce soit un péché grave de fumer. C'est un péché grave de trop fumer, certainement. C'est un péché grave de trop fumer si le fait que je fume trop entraîne des catastrophes au niveau de ma santé, oui. Fumer aussi peut être devenir un péché grave si le fait que je fume me fait dépenser de l'argent que je dois impérativement garder pour autre chose. À cause des conséquences, ça peut devenir donc un péché grave. Gambling. Gambling, c'est en français, c'est, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça. Pas boire, pas fumer. Gambling, c'est les jeux d'argent. Donc, est-ce que c'est en soi un péché d'aller dans un casino, jouer 20 euros dans un casino? Alors, certains disent que oui, je ne suis pas d'accord. En soi, je dirais, le casino est un endroit que les catholiques doivent éviter comme la peste, c'est absolument évident, à cause des péchés qui s'y commettent en général, relatifs à l'alcool, à la nourriture, tous les péchés de la chair, tout l'esprit délétère qui y règne, mais en soi, je dis bien en soi, faire un jeu de cartes pour quelques centimes ou aller de temps en temps dans un casino avec votre épouse pour jouer 20 euros, bon, je peux pas le conseiller, mais je ne dirais pas que c'est une faute grave. Cependant, attention, hein, les jeux d'argent peuvent prendre du contrôle total de votre intelligence. L'addiction la plus difficile à éliminer, c'est l'addiction au jeu d'argent. C'est encore plus difficile que l'addiction à l'alcool ou au tabac. J'ai connu des personnes catholiques, pratiquantes, donc qui avaient malheureusement cette addiction, mais c'était terrible parce que quand ils partaient au casino jouer de l'argent, mais ils ne pouvaient plus s'arrêter. Parce qu'évidemment, ils commençaient à perdre, donc ils voulaient rester. Ou ils commençaient à gagner, à ce moment-là, ils disaient, c'est mon jour de chance, je change, je reste pour gagner plus. Ils commençaient à perdre, ils restaient plus longtemps pour pouvoir récupérer ses pertes. Et dans tous les cas, ils revenaient après avoir dépensé pratiquement tout le salaire du mois, quoi. C'était épouvantable. La sobriété, article 4 de la question 149, la sobriété est-elle nécessaire aux grands? Là, certainement, une bonne réponse, une réponse intéressante. La sobriété est surtout nécessaire aux jeunes gens, aux femmes, aux vieillards et aux personnes constituées en dignité. Jeunes gens, femmes, vieillards, personnes constituées en dignité. Pourquoi jeunes gens? Parce que les jeunes gens sont pas encore capables de justement d'utiliser correctement la raison dans ce domaine, ils vont avoir tendance à trop boire. Les femmes, je pense que c'est très important, surtout aujourd'hui, à cause des conséquences. J'ai connu des cas épouvantables de femmes qui se sont trouvées dans une situation ahurissante, se sont trouvées pratiquement enceintes, des jeunes filles, parce qu'elles étaient dans une soirée où on les a fait boire, et puis il y a eu des catastrophes qui sont arrivées, c'est plus ce qu'elles faisaient, c'était pas de leur faute en tant que telles, elles n'ont pas fait exprès, mais elles auraient dû quitter immédiatement la soirée quand elles se sont rendues compte que dans ce lieu dans lequel avait eu la soirée, il y avait des gens qui n'étaient pas corrects, d'accord? Donc, je vous lis le texte de Saint-Thomas parce qu'il est important. Aux jeunes gens, donc, la sobriété est nécessaire surtout, qui sont par leur âge très portés à l'amour des plaisirs. Aux femmes, qui manquent d'énergie pour résister à la concupiscence. Aux vieillards, dont la raison doit être plus ferme pour instruire les autres. Et aux personnes constituées en dignité, et d'abord aux évêques et aux ministres de l'Église, pour remplir pieusement leurs fonctions spirituelles. Ensuite, aux princes, afin qu'ils gouvernent les peuples avec sagesse. Donc on verra après, avec la question 150, donc sur l'ivresse, on verra les règles que donne saint Thomas. Moi, j'avoue que je donne toujours comme règle concernant l'ivresse, concernant l'usage des boissons, pour tout le monde d'ailleurs, y compris pour nous prêtres, de ne jamais boire seul. On ne boit pas d'alcool seul. C'est capital pour un prêtre. Si moi, j'ai pas une bouteille de vin, c'est tout pour un prêtre, parce qu'un prêtre, on a du vin de messe, on a toujours des provisions de vin de messe, et donc faire attention à ça. Et puis, très gentiment, des tas de gens qui viennent ici à la messe le dimanche, souvent me laissent une bouteille de vin. Vous savez, j'ai amené une petite bouteille de vin du pays, buvez ça quand vous voulez. Mais je refuse de boire quand je suis seul. Hein, donc on boit en société, j'invite des amis, je suis invité par des amis à un repas, ou j'invite des personnes à manger avec moi après la messe, bon, après la messe du dimanche, bon, qu'on sorte une bouteille de vin, c'est normal. Encore une fois, il faut que les choses soient réglées. C'est pour cela que le bon Dieu nous a donné une raison. L'homme est un animal raisonnable, et il faut que la raison, justement, contrôle toutes ces choses-là. Donc, la prochaine fois, nous verrons donc l'ivresse, c'est une chose très importante, malheureusement. Et ensuite, la deuxième partie de la traité sur la tempérance va toucher la chasteté et la luxure en général. Et là, la virginité aussi, la luxure, les différentes espèces de luxure. Et vous verrez ce que dit saint Thomas d'Aquin sur les péchés contre nature, ça laisse rêveur. Alors nous verrons tout cela, si Dieu veut, dimanche, vendredi prochain. Donc nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.